Entre nous soit dit, Lydia Gabor.
Bonjour à tous. Vous avez peut-être une vie très organisée, prévisible, entre votre travail, vos loisirs, vos amis, votre famille. Seul temps d'aventure, c'est peut-être votre sport, pratiqué indoors, sur un tapis de course. Et un jour, au détour d'une phrase, l'édifice vacille. Bonjour Michel Laya.
Bonjour.
Vous signez Le tapis de course aux éditions Zoé, c'est votre 11e roman, c'est bien ça ?
C'est ça, oui.
Non, vous ne voulez pas ça. Me corriger, c'est
non,
ça bah,
non, c'est juste parce que des fois je lis 10, 11, 12.
D'accord, vous ne savez pas en fait.
Non, mais je crois que c'est 11, ouais.
C'est 11, ouais. Bah, voilà. Et donc, c'est l'histoire, est-ce qu'on peut dire que c'est l'histoire d'un homme comme les autres ? Ou il est quand même un petit peu différent des autres ?
Ah, j'espère qu'il est quand même... C'est difficile votre question. J'espère qu'il n'est... J'espère
qu'on n'est pas,
pas tous comme lui. Et j'espère que beaucoup de gens échappent à ce qu'il est. Mais en même temps, j'ai peur que beaucoup des travers qui sont les siens nous concernent de loin, espérons-le, mais peut-être parfois aussi de près.
Qui est-il en deux mots ?
C'est un homme qui a une vie extrêmement figée, statique, organisée, parce qu'il est, le directeur général, enfin pas le directeur général, plutôt le responsable général du secteur philosophie et littérature de la Grande Bibliothèque. On ne sait pas très bien où est cette Grande Bibliothèque.
Donc c'est un homme de culture.
Alors justement, c'est un homme de culture, mais en même temps qui est complètement corseté et dans sa culture et dans sa vie. Et qui, dans le fond, je pense qu'on a l'occasion d'en reparler, parce que c'est une des choses qui m'intéressait, ne fait pas grand-chose pour essayer d'échapper à une sorte de sclérose qui se met en place dans son existence.
Mais derrière tout ça, ce qu'on comprend en parcourant le livre, c'est qu'il y a une sorte de peur. Il y a une sorte de peur de souffrir, une sorte de peur de perdre son confort. C'est un petit bonhomme à l'intérieur de tout ça.
Ben, c'est-à-dire que c'est peut-être une forme du soft goulag, hein, comme d'autres l'ont appelé. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, il est dans quelque chose de confortable, il est dans quelque chose de maîtrisé, hein, il a prise sur tout ce qui l'entoure. Et puis, il a cette culture, malgré tout, ou en tout cas, connaissance, qui lui donne, pense-t-il, le droit de se montrer hautain et méprisant avec les autres, ce qui, évidemment, est insupportable, parce que c'est des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et là où moi je n'aime pas ce personnage, c'est peut-être essentiellement parce que c'est quelqu'un qui aurait les moyens, justement, et financiers et intellectuels, parce que évidemment tout le monde n'a pas ces moyens pour toutes sortes de raisons, de changer sa vie, de faire autre chose, d'être un peu différent. Et dans le fond, on se rend compte qu'il a cédé sur tous ses désirs et qu'il se recroqueville dans cette existence-là très terne.
Mais c'est humain.
Oui.
C'est humain d'avoir peur de perdre ce qu'on a.
Oui, alors c'est une première chose. Vous avez raison, c'est humain de perdre un confort qu'on s'est construit et qu'on s'est peut-être construit de manière difficile. Par contre, son attitude vis-à-vis de ceux qui l'entourent, c'est-à-dire... C'est pas facile à résumer en peu de mots parce que dans le fond le livre est là pour ça et je pense que le personnage est peut-être plus complexe qu'il pourrait en avoir l'air. Mais disons que ok, donc comme on l'a vu avec son savoir, avec ses connaissances, il se montre hautain, il se montre supérieur, il se montre méprisant et puis en même temps il se culpabilise un petit peu. Donc il est tout à fait lucide de comment il agit. Donc il se le reproche. Ça, c'est peut-être une deuxième étape. Mm-hmm. Mais il y en a une troisième. C'est-à-dire que dans le fond, il est aussi conscient qu'il y a une forme de volupté et de plaisir à se reprocher le mal qu'on a fait.
En tout cas, le bien qu'on fait pas.
Oui, et le bien qu'on fait pas. Et là, se met en place un processus tout de même assez pervers et assez inquiétant.
Mais cet immense édifice humain, parce qu'il a un côté comme ça très, comment dire, monolithique, c'est un peu David et Goliath, parce qu'un jour, il est à la merci d'une phrase qui va le démolir d'une certaine manière, c'est-à-dire qui va remettre en question tout ce qu'il a construit. Et c'est pas un événement dramatique, c'est pas qu'il perd son boulot, c'est pas qu'il perd sa femme, comme ça, c'est juste une petite phrase fugace et qui rentre dans l'interstice de cet édifice et le touche, mais en plein cœur.
C'est exactement ça, qui va donc lézarder toute sa construction. Alors en deux mots, hein, cette petite phrase, on peut peut-être quand même la dire, il est en train, situation très banale, quoi, très concrète, il est en train de faire ses courses dans un supermarché, il arrive, il est à la caisse, comme ça, avec un chariot plein, et en fait, il y a un jeune garçon qui remonte la queue, la file, derrière lui, qui essaie de passer,
et qui a juste
un litre de jus d'orange, une boisson, et quand il arrive à la hauteur de notre héros, il lui demande de passer, et en fait, il bouche l'espace, il ne le laisse pas passer, il bloque, et voilà, comme ça.
Que chacun fasse la queue,
même si on n'a qu'un litre de jus d'orange, enfin, on voit bien ce genre de situation autoritaire. Voilà. Et en fait, ici, le jeune homme va traiter notre héros de pauvre type.
Mais avec très tendrement, même pas agressif.
C'est ça, avec indifférence. Je crois que c'est ça qui est important, parce que l'agressivité, c'est encore prendre en considération l'autre. L'indifférence est évidemment l'état le plus difficile à supporter
oui, oui.
Et à avoir. Donc ce jeune homme a cette formule de manière tout à fait indifférente. Et là, effectivement, le poison s'infiltre. Et pour moi, ce qui était aussi assez cocasse, c'était de voir cet homme de culture, comme on l'a dit, encore que bon, mais enfin oui, quelqu'un
qui lit
beaucoup, il sait beaucoup de choses, etc. Et dans le fond, ces deux petits mots, cette petite expression de pauvre type qu'il reçoit en pleine figure, va avoir un effet, et comme vous l'avez dit, hein, gigantesque sur lui, et va enfin, une parole va réussir à agir, va réussir à le transformer, à insuffler quelque chose, alors même que, et c'est quand même le comble, et ça paraît fou, tous les livres, toute la littérature qu'il a absorbée, etc., on a l'impression que c'est resté lettre morte.
Ça tient pas le. En fait, tout ça ne tient pas le coup face à ces deux petits mots dits par un adolescent. Moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est lui au fond, adolescent, à travers cet adolescent qui lui dit pauvre type, c'est comme si l'adolescent qu'il a été se voit comme il est devenu. Et là, il y a. Mais vous le dites pas dans le livre. C'est mon interprétation.
Oui. Alors, puisque c'est, pour moi, toutes les interprétations qui peuvent se justifier sont bonnes. Donc, et j'aime bien celle-là. Et c'est peut-être d'autant plus vrai que on se rend compte que cet homme-là, parce qu'on va avoir quelques flashbacks.
On va vivre avec lui.
Bon, voilà. On va entrer un petit peu dans son intimité.
150
quand même.
Pages, on va vivre avec lui.
Ouais. C'est relativement court. Hein. Mais on se rend compte que des désirs, des vrais désirs, il en a eu. Il a été habité par ses désirs à un moment donné, mais il s'est toujours montré lâche dans le fond avec lui-même, avec les autres, et peut-être bien que cet adolescent qu'il est en face de lui, c'est le jeune qu'il aurait pu être ou celui qui a les prémices de ce que lui n'est pas devenu, enfin voilà, le contraire de ce qu'il est devenu lui.
Ouais. Alors le titre, moi je le trouve de nouveau interprétation personnelle un peu ironique parce que le tapis de course. Course évoque la course à pied, la course, même le marathon, enfin des choses qui sont très à la mode en fait en ce moment. Mais tout d'un coup, le tapis de course, ça réduit justement l'ampleur de course. Vous avez voulu montrer un peu dans quelle contradiction il vivait, c'est-à-dire que il y a le sport, il y a tout ça, mais il fait pas de la course à l'extérieur ou des choses. Il fait du tapis de course.
Il fait du tapis de course. Donc effectivement, cet instrument
d'appartement ou de salle ou de
fitness. J'ai moi-même tenu trois mois dans un fitness il y a un certain nombre d'années.
Sur le tapis, notamment,
j'ai expérimenté le tapis. C'est un truc terrible. Hein. Bon, je comprends bien qu'il y ait des gens qui aient besoin de faire ça pour toutes sortes de raisons cardiaques et autres. Il ne s'agit pas de ça. Mais tout à coup, évidemment, ça devenait métaphorique de son existence, c'est-à-dire cette espèce de course vaine qui dans le fond mène nulle part, épuisant tout de même, mais en même temps lui sur ce tapis de course il en a une vision
héroïque,
hein, oui. C'est-à-dire que sa seule jouissance elle est là, elle est dans cet effort, elle est dans ce défi chaque jour renouvelé, et évidemment c'est pas Sisyphe, hein, parce que lui il choisit ça, mais on n'est pas loin de quelque chose de totalement absurde.
Et mythologique. Et presque.
Peut-être mythologique, lui prêter, enfin, lui conférer beaucoup d'honneur.
Michel Léanson, qu'on vous l'avez pas trop dans votre cœur, ce personnage.
Mais oui et non, parce qu'en même temps, j'ai aussi un petit peu, j'ai une forme de compassion pour lui, j'ai une forme de tendresse malgré tout pour lui, et parce qu'il y a quelque chose aussi de cassé, sans qu'on sache forcément dans le livre d'où ça vient, mais c'est un personnage qui est triste, et la tristesse peut émouvoir, quelle qu'elle soit.
Michel Léa, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans l'émission sur la première.
On est dans une phase transitoire pour cette place de la Grenette et place Notre-Dame. C'est en fait l'espace important du bourg de Fribourg, du bourg de la ville, du départ de la ville. Elle était divisée avant par un espace, c'était le pont muré, qui scindait cette place en deux parties. Les fontaines de la ville avaient présenté un signe distinctif. C'était un point de repère aussi, un point de ralliement. Et par certaines transformations qui ont été faites sur cette place-là, on a mis cette fontaine-là un tout petit peu à l'écart, à l'ombre de deux marronniers. Il s'agit très souvent de modèles qui ont été recopiés, puisque les originaux sont déposés au musée d'art et d'histoire pour assurer leur conservation.
C'était l'architecte de la ville de Fribourg. Vous connaissez cet endroit dont il parle ? Vous connaissez un petit peu Fribourg, mais peut-être pas au moment où vous êtes né.
Oui, il se trouve que si mes origines sont à Fribourg, j'y ai jamais vécu. Donc c'est une ville dans laquelle je vais, notamment pour aller au musée d'art et d'histoire ou ailleurs, où j'ai quand même quelques personnes, quelques amis là-bas. Mais c'est pas une ville que je connais très très bien.
Même maintenant, même aujourd'hui.
Même aujourd'hui, chaque fois que j'y vais, je l'apprécie beaucoup parce que je vais dire des choses qui sont un peu caricaturales, mais qui malgré tout restent, je crois, assez vraies. Je pense qu'il y a dans le canton de Fribourg et peut-être dans les cantons catholiques d'ailleurs, d'une manière globale, une facilité à user de la parole, à dire les choses, à pas garder les choses enfouies en soi, qui est clairement là. Et c'est vrai que parfois, dans le canton de Vaud, par exemple, avec toutes les qualités, j'aime beaucoup ce canton et j'aime beaucoup Lausanne, hein, c'est pas ça, mais on sent qu'il y a encore ce fond de protestantisme qui a ses qualités aussi, hein, c'est clair, mais là je parle plutôt des défauts, et qui consiste toujours à considérer qu'un certain nombre de choses sont tabous, et donc on va ruminer à l'intérieur un certain nombre de choses, alors que ce serait parfois tellement plus simple de les dire.
Comment se fait-il que vous soyez né à Fribourg ? Par quelle lubie du destin ?
Mais parce que mes parents sont... Enfin, mon père est fribourgeois, et il travaillait à l'époque, je sais même pas où, en fait.
Voilà. Dans un journal, peut-être.
Après, très très vite, on est parti en fait quelques années en Valais.
En Valais, d'accord.
Après, ça a été Berne. Après, en fait, on a suivi un peu mon père qui était journaliste, et il s'était fait engager donc à Sion. C'était à la Feuille d'Avis du Valais. Et ensuite, il s'était fait... Mais là, j'ai mes premiers souvenirs, parce que je suis resté jusqu'à 4 ans, quoi. Donc, j'ai la souvenir des casernes, comme ça, des militaires à Sion qui nous donnaient des biscuits militaires qu'on allait chercher. Et puis après, donc, c'était Berne, parce que là, il travaillait à la Radio Internationale. Et après, c'était Lausanne, parce qu'il a travaillé dans le bâtiment où nous sommes maintenant.
Mmh. Et donc, les souvenirs d'enfance, c'est quoi pour vous ? C'est justement ces changements de ville ? C'est votre famille ?
Les souvenirs d'enfance, c'est d'abord, j'ai eu la chance, je crois, d'avoir une enfance très libre. Mes parents, on était dans une relation de confiance, et dans l'enfance, et dans l'adolescence, et dans la grande adolescence. Et rétrospectivement, quand je pense à ce qu'ils m'autorisaient à faire, alors c'est vrai, l'époque n'était pas tout à fait la même, mais ça me paraît presque incroyable, ce rapport de confiance qu'on avait. Ça veut dire que, bon, ça se fait encore aujourd'hui, mais j'avais pas 16 ans. Je suis parti quand même un mois faire un premier interrail. À 17 ans, je faisais du stop entre Montréal et New York avec un copain. On a réussi à entrer sous le territoire américain alors qu'on n'avait légalement pas l'âge. En fait, il faut avoir 18 ans, mais en fait, on a passé entre les gouttes par un coup de chance, enfin, etc. Donc, et je me dis, bah tiens, ma mère me laissait partir comme ça. Il y avait pas une inconscience, mais une forme de courage, peut-être. Peut-être aussi que c'était moins dangereux qu'aujourd'hui, je sais pas. Oui, beaucoup de liberté d'abord.
Vous aviez des frères et sœurs ?
Alors j'avais une sœur.
Plus jeune,
qui a une année de plus. Donc
petit garçon qui partait à 16 ans déjà rouler sa bosse.
Oui, et d'ailleurs, je suis pas du tout un voyageur. Hein. Enfin, j'ai un peu voyagé comme tout le monde, mais ouais, peut-être un petit peu plus que certains. Mais je suis pas du tout un grand voyageur. Mais j'aime bien partir, j'aime bien revenir aussi. Mais je pense, alors, par contre, le fait de faire des voyages jeunes, je pense que c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire d'avoir le moins de savoir, de connaissances sur où on va, sur comment ça se passe et tout. C'est-à-dire aller se brûler un peu les ailes, aller se perdre, etc. Je me souviens, pour vous donner, puisque je parle de ce premier voyage en interrail, donc j'avais 16 ans, on avait très peu d'argent pour faire ce tour, de l'argent que j'avais gagné au McDonald's en confectionnant des hamburgers au grill, enfin bref. Et puis, à un moment donné, on cherchait à Rome un endroit pour loger. Et c'était difficile, ça coûtait cher. Et on a rencontré un curé qui nous a dit « je vais vous trouver une solution ». Et on s'est retrouvés un peu dans la sacristie de l'église qui est sur la Piazza Navona, depuis laquelle on voyait en fait la Piazza Navona. Et on connaissait absolument rien de Rome. On regardait cette place depuis cette fenêtre, sorte de soupirail plutôt. Et on se disait « ouais, c'est pas mal cette place ».
C'était célèbre Piazza Navona.
C'était juste la Piazza Navona, mais vous voyez, dans une forme de naïveté,
d'innocence,
d'inconscience. Et en fait, je pense que c'est une chance de vivre ce genre de choses-là, quoi. Sans savoir. et d'avoir en fait des yeux neufs, c'est-à-dire que rien n'a été balisé par un discours ou par tout ce qu'on a pu par exemple écrire sur cette place, quoi. Donc vous la découvrez comme si vous étiez le premier à la voir.
Et donc, comme adolescent, vous étiez à Lausanne, donc je pense que la Dolce Vita, le cabaret Orwell, tout ça, vous y étiez.
Alors oui, j'étais relativement jeune, mais chevelu, oui. Là aussi, il y avait pas mal d'insouciance parce que je me souviens que les années où je passais ma maturité, enfin ces deux trois années là, je sortais beaucoup et on allait au cabaret Orwell, qui était donc cet endroit qui a précédé la Dolce Vita, c'était les
centres autonomes,
voilà, manifestation de Lausanne Bouge. Et tout. Il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, à Lausanne, il n'y avait presque rien.
Ouais.
Aujourd'hui, ça paraît incompréhensible et presque gageux quand on dit ça. Mais vous sortiez le soir, il y avait un, deux bistrots où on pouvait aller relativement tard, une, deux boîtes, mais on n'était pas trop intéressé par ça. Et en fait, il n'y avait juste rien. Donc le cabaret Orwell, c'était un endroit mythique parce que c'était la période un peu punk aussi. Et je me souviens qu'il n'y avait pas de sortie de secours dans cette salle. Et un soir, il y avait un groupe qui était sur la scène, la salle était pleine et c'était relativement tard, ils avaient joué plus de 2 heures, etc. Et donc les musiciens voulaient partir, mais ils devaient, pour partir, passer à travers le public. Et en fait, le public les empêchait de passer, reprenait les musiciens, les jetait sur la scène et ils ont dû jouer quasiment jusqu'à ce que mort s'en suive et que les gens n'en puissent plus. Mais c'est, bon, voilà, quoi, c'était juste pas possible. Mais c'était assez joyeux tout ça.
Et vous avez fait un bac commercial, mais vous avez quand même choisi d'étudier les lettres. Là, vous êtes devenu un peu plus sérieux ou comment ?
Non, je sais. Oui. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir dans mes études universitaires, même si j'aurais pas voulu les prolonger parce que voilà, c'était un temps donné.
C'était bien assez, oui.
C'était assez, mais le gros avantage, c'est évidemment, comme beaucoup comme moi pourrait dire ça, je suppose, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à étudier ce que j'aimais, et je trouve que les années qui précèdent sont des années extrêmement difficiles, exigeantes, casse-pieds.
Vous voulez dire le gymnase,
oui, c'est ça. Le monde de l'enseignement est un monde qui n'évolue pas ou très lentement. C'est un monde extrêmement conservateur où il y a très peu de prises de risques qui sont tentées.
Vous parlez en connaissance de cause, parce que à part votre activité d'écrivain, vous donnez aussi quelques cours.
On est dans la répétition du même depuis toujours. Alors bon, on fait des espèces de choses cosmétiques, mais qui sont totalement dérisoires et qui n'ont aucun sens. Il y a aucune vraie tentative de faire les choses un petit peu autrement. Bon, voilà, je veux pas parler trop longtemps de ça parce qu'il y aurait trop à dire. Mais je trouve quand même que c'est extrêmement extrêmement conservateur comme monde. Et je déplore un peu, quoi.
Et de
plus en plus, hein, de plus en plus. Vous savez, aujourd'hui, les profs sont en train de devenir à peine des ouvriers spécialisés, quoi. Ils avancent tous à la même cadence, ils font le même exercice au même moment, le même programme. On n'a plus envie d'avoir de personnalité, de gens. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer dans le monde de l'enseignement, au-delà de savoir si oui ou non il faut des notes. Évidemment qu'il n'en faut pas, c'est ridicule, ça n'a jamais servi à rien, des notes. Mais voilà, les vraies questions ne sont pas posées, il n'y a pas de vraie tentative de tenter autre chose. Alors que ça fait longtemps que et là des fois on perd un peu foi dans le je sais pas que ce soit Rabelais, Montaigne ou Rorda, que j'aime beaucoup, quoi. La grande réforme de l'an 2000, c'est les choses les plus intelligentes qui ont été dites sur l'enseignement, mais on a l'impression que tous ces gens n'ont pas existé.
Bon, on a entendu le cri du cœur. On rappelle le titre de votre roman, Le tapis de course. Vous êtes avec nous jusqu'à 15h.
you like it more and more, take it as it comes. Specialize in having fun. Take it easy, baby.
Take it as it comes, c'est les Doors sur la première et c'est votre choix, Michel Laya. Ça vous rappelle des choses?
Oui, j'ai pas mal de souvenirs associés à toutes sortes de groupes.
À Jim Morrison.
Mais notamment aux Doors, mais particulièrement sur cette chanson, en fait, c'est un peu irrationnel et peu raisonnable. Mais vous savez, dans la vie, des fois, on a besoin un peu de béquilles. On traverse des moments difficiles, on doute, enfin, ça arrive même assez souvent. Et puis, quand j'avais 18, 19 ans, justement, dans cette période du bac, de la maturité et tout ça, période, si à cet âge-là, on commence pas à se questionner, on est un petit peu perdu pour l'existence et j'avais des moments un peu déprimés comme ça parce que les choses se passaient pas aussi bien que je l'aurais voulu, soit dans mes résultats scolaires, soit dans mes amours, dans toutes ces choses là et j'avais une bécane, une moto à ce moment là et je me souviens que quand je descendais à l'école en moto, je m'arrêtais et je chantais cette chanson là
Take it as it comes.
Voilà.
Exactement. C'est-à-dire, prends les choses comme elles viennent.
Voilà, prends les choses comme elles viennent. Et puis, ça me donnait un petit peu cette force de relativiser par rapport à un certain nombre de choses où on vous met la pression, on vous fait croire que c'est vraiment ça la chose la plus importante et puis tout à coup les choses devenaient plus relatives, se décentraient et donc en fait cette chanson m'a aidé hein, dans la vie d'une certaine manière et puis presque encore aujourd'hui si ça se trouve je pense que je dois la chantonner de temps en temps quand il y a un problème.
Quand j'ai lu le manuscrit de Catherine Vauvais, évidemment, c'était un moment extrêmement agréable, n'est pas assez fort. Enfin, c'était ça vous fait carrément. Vous vous dites que vous êtes quand même dans la bonne direction avec votre métier, hein, parce que des fois, on pourrait quand même en douter vu qu'il y a tellement de difficultés à faire connaître les livres. Et il y a eu que deux textes que j'ai reçus, donc tout à fait nouveaux, qui aussi immédiatement m'ont paru comme être faits pour nous. Enfin, alors à partir de ce moment-là, il y a la relation qui se crée avec l'auteur, qui est une relation sur le texte. Disons, je suis à la recherche de grands textes, hein, vraiment. Je lis toujours aussi un tout petit peu des classiques pour rester vraiment dans la littérature, mais je suis à la recherche de textes, de vrais textes, et donc je suis tout aussi heureuse maintenant de trouver un grand texte qu'il y a 35 ans.
C'est la fondatrice de Zoé, Maëlys Pietri. Je suis désolée, elle parle de Catherine Lovet, oui, pas de vous, parce que j'ai pas trouvé en extrait, elle parlait de vous, mais entre vous et Maëlys Pietri, il y a eu une rencontre aussi, comme elle dit, à travers un manuscrit ou à travers un texte.
Oui, bien sûr, Maëlys Pietri.
C'était quoi le premier que vous lui avez proposé?
Alors le premier texte que les éditions Zoé ont publié, c'était Les Légataires, qui était un texte assez difficile, assez ardu, comme ça, que Maëlys a tout de suite adoré et a choisi de publier. Puis ensuite, Les Larmes de ma mère sont venues, La Complainte de l'idiot, enfin, etc. Donc, oui, c'était une très belle rencontre. Maëlys Pietri est vraiment fait partie de ces gens très, très précieux, parce que elle est extrêmement claire. Chez elle, le langage est toujours clair. Ce qu'elle recherche est clair. C'est quelqu'un qui est, sans jamais être buté ou obstiné, radical. Qui va. Oui, c'est parce que des fois la frontière, elle peut être, elle est fragile.
Mais pratiquement, vous êtes allé, vous aviez quel âge? Vous êtes allé avec votre manuscrit la voir? Comment ça s'est passé?
En même temps, c'est lié à quelque chose d'un petit peu douloureux parce que les trois premiers livres que j'avais publiés. Et je suis heureux de voir que l'âge d'homme aujourd'hui repart sur des bases qui sont un peu meilleures, avec toutes sortes de jeunes auteurs qui arrivent et qui font du très bon travail. Donc c'est très très chouette. Mais moi j'avais publié donc mes trois premiers livres à l'âge d'homme et ça se passait plutôt bien, sauf que par rapport à ce qui allait se passer avec Zoé, c'était quand même plutôt dans le monde suisse roman. Hein, à ce moment-là, la diffusion n'était pas géniale pour les auteurs suisses sur la France. Et puis après, vous savez, il y a eu toute cette période un peu douloureuse avec Dimitrievitch, avec la Serbie, avec le conflit serbe,
donc,
etc.
Donc Dimitrievitch était le patron
qui
de l'âge d'homme.
Le patron de l'âge d'homme. Et puis avec un certain nombre d'auteurs qui défendaient des positions assez difficiles à défendre de cette manière-là, en tous les cas. Enfin, bon, tout ça a été compliqué. Voilà. Et puis, à un moment donné, moi, je me souviens, il y avait une journaliste qui voulait faire une page sur le troisième livre que j'avais publié, donc, à l'âge d'homme, en France. C'était dans le magazine littéraire. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé? Elle m'avait téléphoné, elle m'avait dit que... non, la quinzaine littéraire, pardon. Celui de Nadeau, là. Maintenant, je me mélange, quoi. Enfin, celui que possédait Maurice Nadeau. Et puis là, en fait, elle m'appelle pour me dire, je peux pas... Le papier était fait, je peux pas le publier, parce que Nadeau, actuellement, ne publie pas un article sur un livre qui est publié à l'âge d'homme.
Voilà.
Pour des raisons idéologiques. Mmh. Et puis là, j'ai compris, alors, bon, voilà, que en fait, la porte de la France à ce moment-là se fermait, quoi, pour moi, par rapport à mon éditeur, que ça, j'arriverais pas à le changer. Et puis, ça faisait un moment qu'il y avait des gens, parce que moi, j'étais un peu naïf au début dans mes premiers livres. Bon, voilà, il y avait Frochot qui travaillait aussi à l'âge d'homme, s'était enthousiasmé pour les livres, mes livres, donc je lui dois beaucoup, il les avait publiés et tout. Mais je connaissais pas plus que ça le milieu éditorial en France ou en Suisse. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit, des gens avertis, qui m'avaient dit, mais c'est Zoé, toi, c'est Zoé, il faut aller chez Zoé. Donc, j'ai envoyé les légataires chez Zoé. Mm-hmm. Et là, Marlise a tout de suite réagi.
Elle a pris contact.
Elle a pris contact. Et voilà, c'était le début et d'une amitié et d'une aventure éditoriale ensemble, qui maintenant continue, bien sûr, avec Caroline Couteau, qui depuis 2 ans maintenant a repris la direction de la maison d'édition.
Elle a un peu la même ligne et la même sensibilité que Maëlys. Évidemment, ce sont deux personnes différentes, mais il y a quelque chose quand même, une gémellité comme ça, de goût, de critères.
Oui, je pense. Une exigence, en tous les cas. Quelque chose, une conception de la... Enfin, une idée de la littérature. Ayons pas peur du mot, de la littérature et de rien d'autre. La volonté de défendre cette conception-là et un engagement total. Alors, je pense que les deux sont des belles personnes. Je vois aussi les qualités que Marlise a et que peut-être Caroline n'a pas. Et je vois les qualités que Caroline a et que Marlise peut-être n'avait pas. Mais là, on aurait une espèce de super woman, quoi, s'il fallait mettre ces qualités ensemble.
Si on combinait les deux, oui. Si on était une sorte de magicien, comme ça. C'est important, le rapport qu'on a avec son éditeur en tant qu'écrivain. C'est quelque chose de vraiment important.
Ben, je crois que quand on est dans une relativement petite structure, comme celle de Zoé, si on n'a pas... je pense que c'est un privilège d'avoir cette relation-là, d'avoir une vraie relation encore d'éditeur à auteur, où on peut discuter du texte, passer du temps dessus, se téléphoner, se dire des choses... À la fois, c'est très professionnel et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'amitié qui est là. Et je pense que c'est une grande chance être dans l'anonymat par rapport à ce type de travail. Moi, j'aurais un petit peu de difficulté.
Vous étiez d'accord surtout avec le tapis de course, votre dernier opus?
Alors, quasiment sur tous mes livres, il y a eu... Très peu de pierres d'achoppement, des détails, etc. Et en fait, ce livre était quand même assez difficile à écrire parce que le personnage, donc, dit « je ».
C'est une forme de journal,
voilà,
intime.
Exactement, c'est une forme de confession, comme ça qu'il fait. Et c'était évidemment pas facile de trouver la tonalité juste pour... Parce que voilà, il y a ce personnage que j'aime pas trop, en même temps pour qui j'ai aussi de l'attachement, et puis en même temps il faut qu'il parle dans une langue qui soit une langue qui conquiert le lecteur. Enfin, ça c'est pas en ces termes que je pense
créer
que j'écris.
Créer le lien, mais créer
enfin,
un lien.
Enfin,
oui.
Voilà, il faut qu'il y ait une langue qui soit là et qui soit forte malgré tout. Hein. Il y a une journaliste qui avait titré l'histoire très réussie d'un raté. Bah ici l'histoire
d'un anti-héros.
Et d'un raté aussi, quoi. Oui. Donc il faut pas rater l'acte d'écriture. Par contre, enfin bon voilà, donc ça posait toutes sortes de questions. Et en fait, au moment où je C'est vrai que le livre n'était pas terminé, mais j'avais besoin d'un retour. Et le livre, j'ai d'abord écrit en « je », ensuite je l'ai passé à la troisième personne, en « il ». Et puis à ce moment, je l'ai envoyé à Caroline. Et puis là, on s'est vu. Et puis là, elle m'a dit, ouais, le livre, ça va donner quelque chose de super et tout. Mais il y a des choses qui vont pas. Et puis cette troisième personne, pourquoi? Puis là, je me suis rendu compte que évidemment, il fallait revenir à la première personne. Donc voilà, c'est toujours, c'était une discussion qui était tout à fait profitable.
Donc on parle de Le Tapis de course, votre dernier roman. Est-ce que c'était difficile de résister à la tentation de finir avec un happy end? Alors, quelque part, on attendrait, parce que je veux dire, il y a une construction, il y a une tension psychique qui monte, il devient de plus en plus sensible à lui-même, il s'observe, et puis on se dit non, à la fin, il va se passer quelque chose. Et alors, non, vous nous laissez, il se passe un petit peu quelque chose, mais tout en nuance.
Oui, c'est-à-dire, c'est pas spectaculaire, hein, c'est parce qu'il se passe, aussi bien la phrase de départ, le pauvre type est pas très spectaculaire. Mm-hmm. Aussi bien la lucarne lumineuse qui s'éclaire sur les qui apparaît sur les dernières pages est relativement discrète, mais voilà, moi je j'ai peut-être un vieux fond d'humanisme en moi qui fait qu'il y a quand même une forme de foi dans l'homme et rien n'est jamais définitif, et je pense que tout le monde a droit à l'erreur, même si elle dure longtemps, et qu'on a le droit de changer, et qu'il faut tout faire pour le faire quand c'est nécessaire.
Mais vous êtes justement quelqu'un de très sensible aux détails du quotidien, aux petites nuances, pas forcément aux gestes spectaculaires.
Oui, parce que ici par exemple, puisque vous dites ça, moi ce qui m'intéressait c'était les toutes petites lâchetés, c'était les petites mesquineries, c'était ces choses effectivement qui sont plutôt dans le détail. Alors oui, on peut faire un grand livre sur la lâcheté, un grand livre sur la trahison, etc. Et il y en a de magnifiques qui sont faits, qui existent dans le cinéma, dans la littérature, etc. Mais là, oui, c'est plutôt dans un quotidien, puis dans le fond, c'est presque encore plus sordide, quoi, parce que justement ça se passe dans ces petites choses.
Et puis qu'il n'y a pas de jugement pour ça, je veux dire, de jugement de la loi, il n'y a que son propre jugement.
Oui, vous avez raison. Ouais. Ouais.
Mais alors, vous êtes quelqu'un d'imprévisible d'une certaine manière, parce que le précédent, je ne sais pas si c'est le précédent d'ailleurs, Deux Sœurs, c'est à l'opposé total de ce livre. C'est-à-dire, Deux Sœurs, pour moi, c'est l'imaginaire, c'est beau, ça vous envole, c'est la liberté, il y a de la tension, il y a du suspense, enfin, c'est vraiment à l'opposé, c'est brillant comme ça, il y a un côté panache, et ici, il y a un côté détail petit, comme ça, presque presque gogol, vous voyez, un truc comme ça, l'écrivain russe dans le détail. Mais qui ourdit comme ça. Vous avez ces deux aspects en vous?
Alors, je crois que j'ai plutôt dans mon écriture l'aspect des deux sœurs, quoi. C'est ça qui domine.
Donc là, vous êtes un peu contraint pour arriver à un exercice de style, presque.
Non, pas un exercice de style, parce que j'avais, vous savez, un livre, quand même, il n'y a jamais aucune obligation de le faire.
C'est un choix.
C'est de l'ordre d'une nécessité. Donc ce livre, il est, à un moment donné, c'est arrivé, c'était là. Les premières pages se sont écrites, j'avais le ton, et puis le ton et un peu de temps aussi, et donc il fallait que ça sorte. Mais vous avez raison, pour moi c'est quasiment les antipodes, hein, c'est les antipodes des deux sœurs. Les deux sœurs, comme vous l'avez dit, c'est une hymne, une célébration d'une forme de liberté,
d'imaginaire, de fantaisie.
Et puis c'est tout à coup intéressant d'aller tout à fait ailleurs, parce que c'est quand même ça aussi la chance qu'on peut avoir en tant qu'écrivain, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi je fais cela, c'est-à-dire que on peut entrer, quoi, dans toutes sortes de consciences, on peut se décentrer, se mettre à la place et y a une multiplicité des situations comme ça qui devient possible. Mais c'est vrai que ça peut paraître étonnant, et en même temps je fais un lien, parce que d'une certaine façon, même si c'est pas tout à fait mes deux sœurs du livre précédent, mais quand même il fait un rêve à un moment donné où il est emporté par ses deux sœurs à lui. On a compris qu'il a deux sœurs qui l'emmènent dans des arbres, et les deux sœurs allaient toujours dans des arbres, et puis sûrement que cet inconscient qui se manifeste durant la nuit va d'ailleurs agir sur lui, et sa transformation, elle vient peut-être des deux sœurs. Parce que vous voyez, aussi, je devrais jamais dire ça, mais en fait j'y pense, pour moi Les Nuits de Sœurs, c'est un livre que j'aime beaucoup. Voilà, ça peut paraître immodeste de dire ça, mais enfin voilà, j'ai eu beaucoup de presse tout à fait flatteuse sur ce livre, et de gens qui l'ont aimé, mais aussi des gens qui n'ont pas aimé ce livre. Bon, c'est normal, hein, tant mieux, quoi. Enfin, on va pas demander à tout le monde d'aimer ce que vous faites. Mais des fois j'entendais des gens qui n'aimaient pas ce livre, et j'entendais leurs arguments, mais je me disais, mais comment c'est possible de dire ça, quoi? Enfin, vous voyez, j'étais dans une forme d'incompréhension. Mmh. Et je me demande si finalement mon personnage du tapis de course, c'est pas une vengeance contre ces gens-là, quoi.
You believe in me, I believe in you. How come that you do? You believe in me, I believe in you. How come that you don't believe in us? It started up quite badly. It depended on what's mine, but I know it depended on what's hers. It could have been perfect, I guess you thought it was. You didn't understand what was wrong till I told you it wasn't worth the cost. Oh, darling, please, you believe in me.
Believe in Us, c'est J.J. Johansson. C'est votre choix aussi, Michel Laya. Pourquoi ? Ça nous change des doses.
C'est très... en fait, c'est, j'ai, bon, outre le fait que j'aime beaucoup cette voix et ce musicien, c'est très sentimental, le souvenir de cette chanson-là. C'est lié à la personne que j'aime, c'est lié à... d'ailleurs, même peut-être à la fille que j'allais, que j'ai eue.
Que vous avez rencontrée, on dit de façon voilà. Polie. Pas
non, 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 mais non, non, la fille, l'enfant.
Ah, la fille, l'enfant, ouais, que vous avez eue. D'accord.
Tout de même. voilà, donc voilà, une relation très sentimentale avec cette voix, très sentimentale elle aussi, d'ailleurs.
Et vous l'avez découvert comment, ce morceau?
En fait, c'est une amie qui m'a fait découvrir ce disque.
Ouais. Et c'était le coup de foudre pour cette voix et pour cette ambiance, en fait. Que ça tourne, d'accord. Ouais. Mais je vois que c'est encore très actuel, plus actuel que les Doors.
Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ben, j'écris, je peins, de moins en moins parce que j'écris, je vis. Nous habitons un endroit assez merveilleux, à B, mais c'est, enfin, c'est au-dessus de B, aussi dans la vigne du reste. C'est une maison vigneronne que nous avons retapée. Elle avait été mal restaurée, ils avaient fait une sorte de chalet suisse à l'intérieur et on leur a redonné son âme de maison vigneronne. Et c'est un bel endroit, c'est presque un paradis. On a de moins en moins envie de partir. Enfin, moi, je déteste l'avion, mon mari aussi, donc on fait pas trop d'efforts. Je sais pas, se déplacer, arriver à quelques milliers de kilomètres, échanger totalement, c'est pas humain.
Vous avez reconnu cette voix, Michel, d'ailleurs.
Oui, tout de même.
Une voix très radiophonique.
Hein. Ouais, c'est celle de mon père. Ouais.
Alphonse Laya, qui a travaillé longuement dans cette maison. Qu'est-ce qu'il représente maintenant pour vous avec le recul? On sent que c'est... Il a une nostalgie dans sa voix que je trouve très touchante de la personne qui a fait beaucoup de choses, qui fait toujours beaucoup de choses, mais qui est quand même dans une autre étape de sa vie que vous, par exemple.
Oui, même si mes parents sont de jeunes parents, donc on a toujours une différence d'âge qui est pas très grande.
C'est combien? 20-25 ans?
Avec mon père, c'est 23 ans, donc c'est pas énorme. Mais oui, je crois qu'il va bien. Je crois qu'il y a des étapes comme ça dans son existence où il trouve chaque fois son équilibre, ce qu'il a à faire. Alors lui, c'est quelqu'un de, c'est aussi quelqu'un d'assez radical, de très entier, parfois d'un peu buté, mais peut-être qu'il faut ça pour accomplir ce qu'on a à accomplir.
Donc il dit qu'il écrit, qu'il peint. Pour l'écriture, est-ce qu'il a été un guide pour vous ou pas du tout? Vous avez fait ça par vous-même?
Peut-être un guide parce que j'ai vu mon père écrire. C'est-à-dire que mon père, quand j'étais jeune, très jeune, il écrivait aussi des papiers
comme journaliste
et tout. Il a écrit quelques romans et puis ensuite, en fait, il a assez vite arrêté avec l'écriture pour surtout faire de la peinture. Et puis là, il y a quelques années, il est revenu à l'écriture. Et en fait, moi, c'est le rythme de la machine à écrire. et le retour à la ligne comme ça, et ça j'ai eu pas mal de soirées bercées par ce bruit là et je pense que c'est un bruit qui fait voguer. Comme il disait, lui n'aime pas l'avion, etc. Mais c'est pas parce que lui n'aime pas l'avion qu'on doit tous ne pas aimer l'avion et se déplacer. Mais je pense que moi, je naviguais pas mal avec ce bruit-là. Et peut-être que ça jouait un rôle. Mais voilà.
Est-ce qu'il lit vos textes? Est-ce qu'il y a une similitude de style ou pas du tout?
Je suis la personne la mieux passée pour répondre à cette question. Non, j'ai l'impression que c'est quand même assez différent ce qu'on fait.
Mais il lit un peu, il
sait. Oui, bien sûr.
Il donne son avis.
Non, on lit réciproquement nos livres. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça.
D'accord, mais c'est impressionnant d'avoir un père qui est un petit peu sur le même terrain. Je vous ai même posé la question hors micro si vous avez fait du journalisme à la radio. Moi, il dit non, parce que parfois, en écoutant sa voix sur des archives, j'avais presque un doute avec votre voix.
Mais on n'a pas de, il n'y a pas de rivalité. Je crois que chacun sait ce qu'il fait, chacun sait quelle place il occupe, où il est. Ça se passe sans animosité, sans rivalité. Il manquerait plus que ça, quoi.
Vous avez écrit Les larmes de ma mère. Pour une mère réelle ou imaginaire, on ne va pas décider aujourd'hui. Vous avez aussi écrit quelque chose pour les pères.
Oui, Le nom des pères, oui, un texte qui s'appelle comme ça. Ma mère a été extraordinaire parce qu'elle a tout à fait compris que les larmes de ma mère, c'était, y avait beaucoup de choses à voir avec moi, mais dans le fond, relativement peu avec elle.
Comme quoi, on peut avoir une mère réelle et une mère imaginaire.
Oui, et elle a fait la part des choses avec beaucoup de sensibilité, de douceur et de compréhension. Enfin, voilà, il y avait pas du tout de soucis. Mais après, par contre, il y a un phénomène qui se passe assez souvent, c'est que vous vous rendez compte avec les années qu'il y a des gens qui s'identifient, qui se reconnaissent très clairement dans vos livres. Et toujours des gens, ou en tout cas très souvent des gens auxquels vous n'auriez pas pensé une seconde. Et ça peut créer des situations assez gênantes.
Parce que le mec du tapis de course, c'est pas vous.
Non, c'est pas moi, non. Enfin, sûrement qu'il y a un petit peu de moi, mais j'espère quand même le moins, pas trop ou le moins possible. Par contre, il y a quelqu'un, un lecteur, qui m'a dit, mais vous savez, le responsable du secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque, c'était en France, en pensant donc à la grande bibliothèque Mitterrand à Paris, mais il existe ce type. Il y a quelqu'un qui a cette fonction.
On va y aller le livre. Et,
ouais, c'est ça.
On va aborder dans les minutes qui nous restent un aspect de votre activité qui m'intéresse beaucoup. Vous enseignez l'écriture à l'école d'écriture de Bienne.
L'Institut littéraire. Ouais.
Voilà. Est-ce qu'on peut enseigner l'écriture? Enfin, le style d'écriture, ça semble tellement personnel, tellement intime.
Oui,
ça peut s'enseigner. Alors, et ça peut s'apprendre de l'autre côté.
Je ne sais pas si ça peut s'enseigner, si ça peut s'apprendre, mais quoi qu'il en soit, je pense que quelqu'un qui a une expérience relativement longue dans là-dedans. On peut être jeune et avoir une expérience longue, hein, c'est pas une question d'âge, hein, mais peut dire beaucoup de choses et peut permettre. Moi, je verrais un peu les choses comme ça, deux choses peut-être pour faire vite. C'est-à-dire peut permettre à des jeunes de gagner du temps là où ça vaut pas la peine d'en perdre.
Ou dans la structure, dans la phrase, dans la construction.
Dans des incohérences.
Qui sont faciles à repérer.
Voilà,
en fait.
Il y a des incohérences qui sont faciles à repérer, dans le fait qu'il faut distinguer peut-être ce qui est de l'ordre du commentaire, ce qui est de l'ordre du récit. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui vont très rapidement aider à avancer et puis pas patiner sur des choses dans le fond qui sont pas intéressantes. Par contre, je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles des fois c'est important dans la vie de perdre son temps parce que chercher soi-même, tâtonner, etc. Et puis l'autre élément, vous savez, ça se fait sur sélection, sur dossier. Les gens qui postulent sont des gens qui ont envie d'écrire, qui écrivent déjà. Enfin voilà, c'est pas.
Il y a une émulation autour de cette école.
Il y a une émulation. Et en fait, l'idée c'est toujours de regarder par rapport au travail d'un étudiant, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans son monde à lui, mais l'améliorer.
Les ressources, le potentiel.
Voilà, les ressources et lui permettre de les développer. Donc c'est ça qu'on fait. Donc on est très très loin du fait de dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est un livre, ça s'écrit de cette manière, etc. C'est pas du tout ça. Quoi.
Mais ça veut dire que c'est un travail très proche, presque du mentorat.
Ah, c'est du mentorat.
Vous travaillez un par un, en fait.
Cette année, j'ai deux étudiants qui terminent, d'ailleurs qui écrivent un peu, Pablo Jacob et Romain Buffat, qui sont, je suis sûr, des gens dont on va entendre d'ici quelques années parler, qui font des choses qui sont très intéressantes. Et là, c'est un travail au corps à corps avec le texte, quoi. Hein. On est là, on regarde le texte, des fois phrase après phrase, on regarde des choses, on discute. Et puis après, toute la structure globale. Enfin voilà, quoi. C'est très stimulant. Et je pense que pour n'importe quel écrivain aujourd'hui, même l'écrivain le plus confirmé qui soit, dans le fond, quand je vois aussi comment les étudiants discutent entre eux de ce qu'ils font, s'il y avait un pareil échange dans le monde des écrivains, ça serait juste génial pour tout le monde. Quoi. Mais il faudrait beaucoup de temps.
Vous voulez pas qu'ils écrivent tous comme vous?
Ah non, pas du tout. Non, mais... j'ai pas du tout envie que quiconque écrive comme moi.
Mais le plus difficile dans cette histoire, c'est aussi de pouvoir se décentrer de son propre style. Je vous disais hors micro, vous avez un style très clair, et de pouvoir aussi entrer dans des styles différents, peut-être plus complexes, ouais. Plus...
Et parfois c'est difficile.
Et parfois c'est difficile, ouais, c'est sûr. Alors, merci pour cette heure passée ensemble, Michel Laya. Je rappelle le titre de votre roman, Le tapis de course, c'est aux éditions Zoé. Il y a un prochain en route?
Il y a un prochain route et puis demain soir à Sierre à 8h au Château Mercier. Je suis là-bas pour une rencontre, discussion. Et la semaine prochaine, mardi, si jamais, pour les amis Genevois.
Le 26 novembre.
À la librairie du Boulevard à 6h avec Roland Buty.
Parfait, ça sera avec plaisir. Oscar Lehmann était en régie cet après-midi. Nathalie Schamberg a choisi les musiques. Michel Laya était notre invité. Monique Cortesi, notre assistante de production. Après les infos, vous allez découvrir... Non, vous la connaissez déjà. Pauline Wrolix qui vous invite dans Passagère. 15h sur la première.